L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde,
du pain de beurre. On dit de la cuisine qu'elle se fait parfois à Bistot d'Enas. Cette locution adverbiale occitane, entendue maintes et maintes fois dans la bouche de ma grand-mère, m'a toujours inspiré un profond respect. Elle m'est synonyme d'expertise et de talent. Expertise et talent, oui, car cuisiner à vue de nez et réussir son plat à chaque fois demande une grande expérience, une grande pratique, une intuition infaillible pour ceux et celles qui savent voir avec leur nez. Ceux-là sont des artistes. Ils se tiennent au seuil de ce qui est, de ce qui doit être et de ce qui l'adviendra. Et ce sont les artistes qui créent leurs propres recettes de cuisine.
Il était une fois un poisson fin. Il aurait pu être poisson si ou ré ou sol ou tout simplement poisson d'eau ou même un poisson un peu là. Non, non, il était poisson fin, un poisson fin, voilà.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans l'Épluche Libre. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Loca. Bonjour Bruno.
Bonjour Nathalie.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Très bien. Je crois que vous avez déjà fait de la radio auparavant.
Effectivement, oui. Ouais.
Contente de retourner derrière le micro?
Ah oui, j'aime beaucoup.
Ouais. Mais merci d'être présent à notre table. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter?
Eh bien, alors je ne le ferai pas à la façon d'une recette de cuisine. Amoureux des signes.
Oui.
Avec un S. Voilà, voyageur. Je lis beaucoup. J'écris beaucoup. Je peins, je sculpte, je photographie. Les signes.
Artiste?
Artiste.
Oui. Alors, cette petite introduction m'amène donc à parler de votre ouvrage Varionyme, qui parle de l'identité.
Oui, tout à fait.
Du moins des identités que vous vous êtes prêtées ou qu'on vous a prêtées. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc cet ouvrage qui a été... du moins là, j'ai dans les mains Varionyme extrait. C'est bien ça?
Oui. Alors, en l'occurrence, c'est un petit ouvrage qui en appelle un autre, en cours d'écriture. Et dans Varionyme, alors voilà comment il est né, ce petit projet. J'ai consigné au fur et à mesure toutes les erreurs que les gens faisaient en m'appelant. Donc par mon prénom, par mon nom, donc que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amical... Et je me suis rendu compte que j'avais un matériau intéressant à partir duquel donc j'ai créé ces varionymes, donc ces variations autour de mon nom, et en prenant évidemment de la distance humoristique, parfois un peu savante, mais c'est un jeu avant tout, jeu J-E-U.
C'est un jeu. Alors c'est un jeu. Qui m'a étonnée, puisque... Alors, il y a certains varionymes qui sont récents, là, comme celui du mail du 28 avril 2025, à l'attention de Monsieur Leclat, ou Leclat, presque Leclat, en tout cas, c'est ce que vous écrivez. Et certains datent de la classe de 4e. Donc là, vous avez une sacrée bonne mémoire.
Je pense que s'il s'agit peut-être pas tant de mémoire... que de l'impact que ce nom, justement, a eu. Alors, on peut en parler très rapidement, hein, puisque donc, mon prénom, Bruno, a été déformé en Bruxno par un professeur de mathématiques. Donc, matière dans laquelle je n'excellais pas vraiment, mais c'est un autre problème. Et cette apparition du X au milieu du prénom l'amusait beaucoup, ce professeur. Moi, pas du tout, parce que je ne voyais pas du tout ce que... pourquoi tout d'un coup cette variable X apparaissait au milieu de mon prénom. Mais bon, ça m'est resté. Et en fait, c'est effectivement un des varionymes que j'ai consigné au tout début.
Peut-être X comme étant l'inconnu.
Tout à fait, oui, oui, c'est la variable de l'inconnu, c'est énormément de choses, effectivement. Mmh. Mais bon, alors il a pris X, peut-être parce qu'il était prof de mathématiques, oui. Je ne le saurais jamais.
Et vous vous l'êtes approprié ou ça vous a toujours un peu, quand même, un petit peu chagriné, ce Bruxno?
Oh non, 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 je me suis... Ça, c'est plus une cause d'amusement et de jeu linguistique maintenant. Mais le gamin que j'étais à l'époque, oui, s'en était un peu formalisé quand même.
Ouais. Oui, oui. Puis la répétition de l'erreur.
Oui, oui, puis ça faisait, vraiment, ça l'amusait beaucoup. Mmh. Donc j'en ai conclu qu'on n'avait pas le même sens de l'humour, mmh, ni les mêmes compétences mathématiques d'ailleurs. Mais voilà, ce X est resté. Et il est tellement resté d'ailleurs, petite parenthèse, que c'est un de mes thèmes d'études préférés. Je pense notamment à Pérec, puisqu'il y a un inédit qui vient de sortir,
et oui.
Où il est question, il est question de la machine. Bref, on en parlera peut-être plus tard.
On en parlera plus tard.
Mais en tout cas, ce X chez Pérec est éminemment important. Donc voilà. Donc oui, je me le suis réapproprié pour répondre à votre question.
Donc, vous avez... différents noms, on vous a prêté différents noms. En tout cas, moi, je vous connais sous le nom de Bruno Leca, alias l'œil à fin, peut-être aussi.
Tout à fait.
Donc, vous êtes un artiste de précision, du moins comme je vous connais. Je vais vous décrire et puis vous allez me dire, mm-hmm, vrai ou faux, comme au maths. Vous êtes un artiste de précision. Vos œuvres, en tout cas celles que je connais, encore une fois, je ne les connais pas toutes, demandent une attention particulière, une attention... qui me semble être à la hauteur de l'attention que vous-même vous portez au monde. Est-ce
ouais,
que c'est exact?
Tout à fait, oui, oui.
Donc vous êtes quelqu'un quand même qui, justement dans les détails anodins, dans les petites frustrations, dans les petites joies, dans les jeux de lumière, ou peut-être même parfois dans des reflets, c'est ça qui va vous inspirer quelque chose, et c'est ça qui va vous inspirer parfois même une exposition entière.
Oui, tout à fait. C'est une sensibilité à ce que l'on ne voit pas forcément au premier regard, à ce qu'on ne sent pas. Alors, vous avez introduit Avistadenas.
Avistadenas.
Avistadenas. ben oui, c'est vrai, c'est ça, parce que tous les sens sont convoqués. La vue, bon, le plus sollicité, certes, mais les autres sens aussi. Et c'est dans les détails, dans l'infra, ce qui est sous les seuils d'ailleurs, mm-hmm, que J a pour moi un trésor, ou en tout cas quelque chose qui va m'attirer, vers laquelle j'ai envie d'aller. Et précision, effectivement, ouais, c'est une espèce de précision d'artisan, à essayer de manier les mots, de manier les pigments, de rapprocher des choses ensemble et puis de voir ce qui va naître.
Donc, vous avez aussi écrit Archéologie ferroviaire. C'est par là que je vous ai rencontré, littérairement parlant, du moins, qui a paru donc en 2022 aux éditions Joux. Alors, je reprends vos mots, ou du moins la quatrième. Il s'agit d'un tissé de dérive et de déambulation entre ville et campagne, dont le sujet principal, ça a parlé à nos auditeurs, est la gare désaffectée de Vendargues. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre?
Oui, avec plaisir. Donc effectivement, paru en 2022. Donc ce livre a un point zéro. C'est la gare désaffectée, non pas de Vendargues, que je vais voir dans un deuxième temps, mais d'abord celle de Castries. Mmh. Puisque je me suis retrouvé en me promenant devant cette gare désaffectée qui a été réaffectée à d'autres fonctions, mais en tout cas dont les rails avaient été, dont la voie avait été déférée, puisque c'est le terme technique, mais reste cette espèce de perspective devant la gare qui s'étend d'un côté de l'autre, et m'a pris l'idée de suivre dans un sens, puis dans l'autre, cette voie. Voie fantôme, si l'on veut, voie dont les rails apparaissent parfois encore, mm-hmm. parfois ensevelis dans la végétation. Mm-hmm. Et voilà comment est née cette déambulation, qui est une promenade géopoétique, si on peut dire, hein, qui mêle à la fois le regard porté sur la terre, sur les choses, et puis tout ce que ça convoque dans cette expérience de déplacement dans l'espace et dans le temps.
Donc, initialement, si je comprends bien, l'intérêt pour cette voie, quel est le terme exact, vous avez dit ?
Déféré.
C'est étrange. Ça me fait penser au cheval, en fait.
Oui,
ça me fait penser au fait de ferrer un cheval.
Tout à fait.
Donc, ouais. À cette voie, l'intérêt pour cette voie déférée est initialement fortuit. Ça a été une rencontre de hasard.
Oui.
C'est bien ça ?
C'est bien ça, oui.
Donc, cette rencontre a donné lieu à tout ce que vous décrivez, au moins à tout ce que vous décrivez dans ce livre, et a donné lieu aussi à ce que je retrouve, moi, plusieurs fois dans votre travail, justement, cet effet de seuil, donc ce qui est entre deux, enfin, des espaces hétérogènes, hein, ce qui va être, donc là, je vous lis la délimitation nette entre le bitume et la végétation. Donc, c'est un effet qui existe apparemment, mais je vais vous laisser nous en parler mieux, dans de nombreux champs scientifiques. Et c'est aussi un terme, par conséquent, que vous braconnez. Est-ce que je peux vous laisser développer ?
Oui. Alors, j'aime beaucoup ce terme, ce verbe braconner, hein, puisqu'il s'agit d'aller sur d'autres terres, donc métaphoriquement dans d'autres domaines, en particulier le scientifique. Donc c'est à la façon de Michel de Certeau, hein, c'est un art de faire. Un art de faire, c'est-à-dire une façon de se réapproprier ce que les autres, l'économie, le productivisme, le souci de rentabilité, le matérialisme nous ont enlevé. Et donc pour moi, cette démarche poétique, c'est essayer de recréer à travers des expériences qui sont très simples, une déambulation, il n'y a rien de plus simple, de retrouver quelque chose ou de trouver quelque chose, parfois d'inventer au sens archéologique, c'est-à-dire comme on invente la grotte de Lascaux pour le premier qui a mis les pieds dedans, donc on invente, c'est-à-dire c'est déjà là, mais c'était ce livre regard. Et il suffit de regarder un petit peu mieux et on voit. Ça me fait penser à une... Je pense que c'est dans L'île mystérieuse de Jules Verne. Regarde de tous tes yeux, regarde, et ça doit être... en exergue d'un livre de Pérec, mais là le titre m'échappe. Voilà.
Ok, très bien. Donc, effectivement, cette notion d'effet de seuil qui est très attirante, très attachante, en tout cas très parlante dans votre travail, est aussi le sujet de l'exposition qui est présentée actuellement à la librairie Les Pluches Libres. Donc, exposition qu'on peut visiter jusqu'au 21 novembre inclus.
Tout à fait.
Et qui sera donc clôturée par une série de lectures performances.
Voilà.
Est-ce que, pour clôturer donc cette première partie de l'émission, vous pouvez nous décrire ce que vous prévoyez ce jour-là ?
Eh bien, vous avez fait le lien qui existe, hein, à savoir cet effet de seuil, puisqu'il s'agit exactement de cela. Dans cette exposition, j'essaie d'explorer différents seuils, qui ne sont pas seulement des seuils visuels, mais des seuils de matière, hein, de texture, donc voilà, différents seuils qui ont donné lieu d'une part à une exploration par les mots et d'autre part à une exploration à travers le plastique, le pictural. Pour moi, c'est la même chose. Je dirais que c'est finalement ce sont des matériaux que je vais utiliser parce qu'il s'impose à tel ou tel moment de l'acte de créer.
La terre aussi, les matières brutes et des matières les plus manufacturées au sens où le numérique est aussi présent dans cette exposition.
Oui, tout à fait. Il y a un côté hétérogène, voire hétéroclite, que je revendique, puisque je dirais tout est intéressant d'une certaine façon. Ça dépend de quelle façon vous allez mettre l'objet ou la matière en perspective. Donc il y a un côté à la fois sans un peu art brut ou arte povera. Et puis d'autre part, le côté un peu plus tendance de l'installation. Mais voilà, c'est, pour moi, ce sont des matériaux. Il n'y a pas d'hiérarchie entre eux, en fait.
Très bien. Passons maintenant à notre pause musicale, qui est aussi en lien, peut-être, avec la musique rugueuse que vous avez su entendre sur les rails. Vous écoutez L'Épluche Libre, nous sommes en compagnie de Bruno Leca qui a choisi ce morceau musical que vous venez d'écouter. Bruno, est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre ?
Alors il s'agit du morceau El Tiempo de la Revolución, donc, le temps de la Révolution, d'Eric Truffaz, donc un trompettiste de jazz que j'aime vraiment beaucoup dans la façon qu'il a d'installer une atmosphère. Alors là, c'est un côté un peu solennel, un peu avec cet ostinato de la basse batterie et de la mélodie. Assez, et puis révolution, parce que bon, une association d'idées peut-être pour avoir vécu longtemps en terre mexicaine et peut-être une résurgence de la révolution mexicaine. Et voilà, j'ai associé révolution. Je ne sais pas.
C'est une musique qui vous ressemble, que vous écoutez souvent ?
Pas souvent, mais quand je l'écoute, quoi. Ouais, ouais. Donc, ah oui. Ouais, c'est quelque chose qui m'emporte.
Là aussi, vous ouais. êtes avec une attention particulière dans votre écoute,
oui,
quoi.
C'est vrai, ouais.
Il y a une intensité, on le sent. Donc, nous avons parlé en première partie d'émission de rails, de chemins de fer, de trains, pas tout à fait de wagons, mais il n'y a plus qu'un pas à les imaginer, qui sont tous là pour nous aider à avancer vers un chemin, à franchir des seuils, je ne sais pas, mais en tout cas franchir des frontières certainement. Vous avez voyagé autour du monde, donc si je ne me trompe pas, Mexique, Japon, Guatemala, Maroc, sûrement entre autres.
Entre autres, oui.
Est-ce que ces voyages ont été source d'inspiration pour vous ?
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que ce travail que je fais autour du seuil me vient sans aucun doute de ces nombreux passages de frontières. J'entends par là, non pas présenter son passeport, évidemment, encore que c'est un acte symbolique, mais oui, les immersions dans d'autres cultures, la rugosité des autres cultures, des autres langues, puisque on ne nous attend pas forcément, on n'est pas toujours bienvenu, ou en tout cas, il faut petit à petit trouver sa place. Mmh. Et voilà, donc c'est vrai que ce seuil, c'est une notion qui, pour moi, s'est dégagée peu à peu et que j'essaie d'explorer comme je le fais maintenant, et en particulier dans le matériau linguistique, dans les mots. Donc c'est quelque chose qui compte, vraiment.
Vous avez vécu très longtemps au Mexique, si je ne me trompe pas, une bonne dizaine d'années ?
Oui, c'est ça, une dizaine d'années, oui.
Ouais. Donc vous avez appris la langue ?
Oui, bien sûr. Alors j'essaie d'apprendre la langue des pays dans lesquels je réside assez longtemps. Donc, je pense que pour moi, c'est le véritable passeport, quoi. Le reste, c'est de la pause ou c'est du tourisme. Mais apprendre la langue, faire l'effort d'apprendre la langue, alors il ne s'agit pas de devenir bilingue, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est pour moi, pour le coup, un seuil important, puisque vous le franchissez en apprenant des mots qui vous sont étrangers, qui ne sont pas les vôtres. Et les habitants vous en sont gré, puisque ils apprécient que vous parliez leur langue, ou en tout cas que vous essayez de vous débrouiller, puisque bon, j'ai appris un peu de japonais, mais je ne suis pas allé très très loin dans l'étude du japonais. Mais enfin, bon, ça permet quand même une petite communication, et c'est déjà quelque chose.
Oui, 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 c'est déjà un premier pas, plutôt que de proposer une langue un peu universelle, un peu uniforme. Ou,
oui, oui, et, ouais. Oui. Par exemple, si vous pensez à l'anglais, bon, dans Tokyo même, oui, bien sûr, vous allez forcément rencontrer des gens qui peuvent communiquer avec vous en anglais, mais c'est pas évident partout, dans tout le pays. Puis il y a des gens qui parlent pas du tout anglais. Mmh. Donc là, il est hors de question de...
Oui. Et puis comme vous dites, c'est une solution qui vient vous souligner en tant que touriste. Alors j'ai trouvé ça spécifique. Vous avez choisi faire une pause, prendre la pause, être touriste.
Oui, tout à fait.
Donc c'est absolument pas ce que vous avez voulu être ou ce que vous avez voulu faire dans vos voyages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer mieux votre position de voyageur en tant qu'artiste ?
Je cherche avant tout l'immersion, oui, tout à fait. Alors l'immersion, ça veut dire apprendre la langue, encore une fois, comprendre la culture, et puis partager des expériences avec les gens que l'on découvre. Et cette... ça peut être parfois rugueux, comme je disais tout à l'heure, puisque forcément, on se cogne. Hein, on se cogne à cette, parfois à cette, à oui, cette oui. réalité, puisque ça bouscule, ça peut faire grincer. Mais bon, pour moi, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de refuser le confort de l'habitude.
Est-ce que vous vous souvenez d'un lieu, d'une ambiance ou d'une rencontre lors de vos voyages qui a été source d'inspiration pour vous et qui a fait mémoire, justement. Alors, positif, négatif, peu importe, mais quelque chose qui a été, dont la rugosité a su vous accompagner longtemps.
Oui, tout à fait. Alors, je pourrais...
On va en choisir un.
J'ai plusieurs exemples d'expériences, mais je vais évoquer celle de la zone du silence, donc dans le désert du Chihuahua. Donc, le Chihuahua, c'est un état du Mexique, au nord. Et j'ai parcouru pendant des heures le désert, et puis je suis tombé sur un panneau au milieu de rien qui disait « zone du silence ». Et donc je suis descendu de la voiture, et la radio ne marchait plus, la montre ne marchait plus, et quand on parlait, la voix tombait littéralement, donc les sons ne portaient pas. C'est véridique. J'en ignore la raison, j'ai cherché, j'en ignore la raison, et... Donc c'est un de ces lieux pour moi qui sont riches en imaginaire, hein, puisque je dirais que comme voyageur d'abord, c'est quelque chose d'assez troublant.
Ah oui, 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 on dirait la fiction.
Ah oui, tout à fait. Et puis bon, puis le rapport au silence, bien sûr, quand on écrit, on est toujours au bord du silence. Mmh.
Donc, sur un seuil, là aussi.
Tout à fait, oui.
Est-ce que ce lieu, précisément, vous a inspiré une œuvre d'art précise, ou une création, du moins, précise?
Ça va apparaître dans un texte, oui, effectivement, oui, qui est en train de s'écrire.
Ah, qui est en train de s'écrire. Donc, qui est en rapport avec Varionim, ou pas du tout?
Non, 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 ce sera tout à fait différent.
Alors, je vais vous cuisiner un peu, là. C'est intéressant. Quel est l'avenir de vos recettes de cuisine actuellement? Qu'est-ce qui est en train de s'écrire? Alors, Qu'est-ce qui se mijote?
Alors, qu'est-ce qui est quasiment cuit? Donc, un recueil de textes qui tourne autour de la façon dont l'imaginaire nucléaire, donc de l'atome, traverse la littérature et quelques œuvres photographiques.
D'accord.
Voilà, donc c'est entre les mains d'une éditrice dont j'attends la réponse.
Dont on ne peut pas prononcer le nom.
Pour l'instant, non. J'attends. Je voudrais avoir son aval avant de le dire, puisque sinon, voilà. Et donc voilà, ça c'est en cours. Et puis d'autres projets, alors un autre manuscrit que je suis sur le point de terminer aussi, qui tourne autour de l'année qu'a passé mon père en Algérie, en tant que militaire engagé pendant la guerre. Et donc ce qui a à voir à la fois avec le silence, encore une fois, oui, puisque c'est une période qui est restée pour toute cette génération sous une chape de plomb. Donc mon père n'a pas fait exception à la règle. Et je remets en perspective, en fait, la lignée paternelle avec la figure de mon grand-père, qui était artilleur sur le front de l'Est en France,
d'accord,
en 40.
D'accord.
Et de son père à lui, donc mon arrière-grand-père, qui était ordonnance à Verdun. Voilà.
D'accord.
Donc, ça tourne autour de ça.
Donc là, on entre au seuil de l'histoire, du moins, on en trouve une porte d'histoire familiale. Puisque effectivement ça c'est quelque chose que nous on connaît, qui est quand même assez proche encore de nous, la guerre d'Algérie, on connaît tous quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie et qui n'en parle pas.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous avez réussi à recueillir des informations, des sources de cette expérience personnelle qui est celle que
alors je ne sais pas si j'ai réussi, en fait, l'avenir nous le dira. En tout cas, très peu d'informations. Quelques souvenirs paternels, quelques mots, quelques photos, quelques diapositives, quelques papiers, c'est tout. Donc,
qu'il avait gardé, qu'il a transmis, ou que vous avez retrouvé?
Que j'ai retrouvé.
Là aussi, c'est un travail d'archéologie.
Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, c'est une exhumation. Hein, c'est une exhumation de cette figure paternelle à un moment donné de l'histoire, et qui, semble-t-il, a beaucoup résonné en moi pour que, si longtemps après, ça m'est poussé à écrire. Et c'est un projet difficile, parce que je ne l'ai toujours pas terminé,
D'accord.
qui me donne beaucoup de mal. Mais voilà, en tout cas, c'est là, et puis ça aboutira.
Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble.
Merci de votre invitation.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. Si vous voulez retrouver Bruno Leca, ça sera à la librairie Les Pluches Livres, donc ce vendredi 21 novembre, entre 15h et 19h.
Alors, 17 et 20.
17 et 20, 17 j'étais et 20. Pas du tout, oui, entre 17h et 19h, et 20h même. Donc pour plusieurs lectures performantes, chacune sera unique et inédite et n'aura pas lieu d'être plus tard. Donc ce sera vraiment un temps exceptionnel qu'on vous propose à la librairie. Et je vous dis à très bientôt sur Les Pluches Livres.
Les Pluches Livres.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle, et on mange. Des cornichons, de la moutarde.